Chapitre 11. Eureka, les grandes découvertes. Dans ce chapitre, les grandes inventions, les grands explorateurs, le monde de la communication. Croire que le monde a toujours été nôtre est une illusion d'homme du XXe siècle. Pendant des siècles, le monde se réduit, pour le paysan ou l'artisan à son village natal, au mieux à une visite annuelle à la capitale provinciale. Un prince vit, lui, à l'échelle de son État et des principautés voisines. L'échelle du continent est bien trop vaste jusqu'à la fin du Moyen Âge pour en avoir une connaissance précise. Puis la Renaissance commence un long travail d'abolition des frontières et de l'espace. Christophe Colomb découvre l'Amérique, Vasco de Gama double le cap de Bonne-Espérance. Des mondes inconnus des Européens s'ouvrent à eux. Cet extraordinaire effort de découverte aurait été impossible sans les progrès techniques qui l'accompagnent. Car l'homme ne découvre pas seulement, il invente, il innove à la mesure de ses découvertes. L'exploration se prolonge dans les laboratoires et les bibliothèques des scientifiques et des érudits. La machine à calculer de Pascal prépare la pile du réacteur nucléaire. À 3 siècles de distance, 1642 annonce 1942. Faire fi des distances, une fois le monde connu exploré, mis en valeur, reste le défi suprême. Comment communiquer à l'autre l'extrémité de la planète ici, maintenant, tout de suite? Aux lourdes caravelles succèdent des câbles transatlantiques, des lignes de téléphone, puis l'immédiateté réelle, la micro-informatique à domicile et Internet. En route, donc, de la lenteur languissante des caravelles, du temps des embruns salés savourés sur les lèvres à celui du clic magique. Les grandes inventions qui ont marqué l'humanité. Connaître les sciences, c'est aussi se pencher sur l'histoire des grandes réalisations humaines au moment où elles passent de l'invention à l'innovation. Inventer, c'est la capacité de créer une nouveauté, mais la plupart des inventions demeurent sans suite, faute d'avoir trouvé leur application pour améliorer la vie quotidienne des hommes. L'invention ne prend sa dimension véritable que lorsqu'elle devient innovation, c'est-à-dire moyen pratique de mieux vivre ici et maintenant, mais aussi origine d'un processus qui permettra d'autres inventions, d'autres innovations. Voici donc venu le voyage dans le temps, la rencontre des inventions innovantes et des grandes découvertes scientifiques. Les grands explorateurs. Le modèle du voyageur et découvreur demeure le Vénitien Marco Polo. Certes, il n'est pas un explorateur au sens habituel du terme. Il ne découvre pas le royaume de Cathay ou la Chine, mais il y séjourne avec ses frères, seuls Européens dans cet immense empire. Surtout, il y voit et découvre au sens usuel, cette fois, des lieux et des modes de vie auxquels aucun autre occidental n'aura accès avant le XIXe siècle. Il est donc essentiel de mettre nos pas dans les siens sur la fabuleuse route de la soie. Christophe Colomb lui-même n'avait-il pas fait de son récit « Le livre des merveilles du monde » son livre de chevet? Puis vient le moment de prendre possession du monde, d'en connaître les océans et continents en suivant Christophe Colomb, Amerigo Vespucci, Vasco de Gama. Ces vastes ensembles révélés, d'autres explorateurs en dessinent des contours plus précis. Cartier et Champlain au Canada, Cook dans le Pacifique, Savorgnan de Brazza, puis Stanley et Livingstone en Afrique, et enfin Amundsen dans le froid des glaces arctiques. Marco Polo sur la route de la soie. Au XIVe siècle, Marco Polo est probablement le plus célèbre des explorateurs de la route de la soie. Son voyage en Asie dure au total 24 ans, et lui permet d'approcher les plus grands personnages grâce à son don pour les langues, notamment l'empereur de Chine Kubilai Khan, petit-fils du redoutable conquérant mongol Genghis Khan. Le voyage en Chine est presque une tradition familiale chez les Polo, puisque le père de Marco, Niccolo Polo, et son oncle Matteo ont déjà accompli un périple du Moyen-Orient à la Chine entre 1260 et 1269. Ils ont à cette occasion déjà rencontré Kubilai Khan. En 1271, Niccolo repart avec son fils de 17 ans, Marco. Passé l'actuelle Turquie, l'expédition traverse toute l'Asie centrale, le désert de Gobi, et arrive en 1275 à Kambalouk, la ville du Khan, futur Beijing, auprès de l'empereur. Pendant les 13 années qui suivent, les polos effectuent de nombreuses missions à l'intérieur de l'Empire pour le compte de Kubilai Khan, qui les comble d'honneur et de faveur. La fin du séjour est assombrie par les difficultés à partir, le Khan étant peu disposé à les laisser quitter la Chine. L'occasion se présente avec le départ de la cour de la princesse Kokedjin, promise au roi de Perse. Les polos ont la confiance du souverain. En 1291, ils font partie de l'escorte officielle de la princesse. Et ce n'est qu'en 1295, après 24 ans d'absence, que Marco Polo revoit Venise. En 1298, Marco Polo entreprend de dicter en français le récit de son voyage et du séjour en Chine. C'est le Livre des merveilles du monde, connu aussi sous un autre titre, Le devisement du monde. Marco Polo y relate à la fois le voyage effectué par son père et son oncle, sans lui, en 1260, puis celui auquel il participe en 1271. L'ouvrage comprend trois parties, trois livres reprenant l'itinéraire. Le premier relate l'aller par le Proche-Orient, l'Asie centrale vers le Cathay. Le deuxième, le séjour dans l'Empire chinois, auprès de Kubilai Khan. Et le troisième, le retour par voie maritime depuis l'Asie du Sud-Est et l'Inde jusqu'à l'Asie mineure. L'auteur évoque les coutumes de l'Empire, la vie de la cour, les batailles, mais aussi son activité en qualité de gouverneur d'une province pendant 3 ans. Des pages entières décrivent avec émerveillement les palais aux murs recouverts d'or et d'argent, les jardins embaumés, les créatures fantastiques. L'enthousiasme de Marco Polo est tel qu'il suscite, quand le livre est connu, méfiance et raillerie. Nombreux sont ceux qui le soupçonnent d'avoir tout inventé. Par dérision, les Vénitiens le surnomment « il milione », c'est-à-dire « l'homme au million ».
Le saviez-vous ? Marco Polo et les assassins. Dans son livre des merveilles du monde, Marco Polo raconte ce dont il a été témoin directement, mais aussi les récits qui lui ont été rapportés sur des faits et événements sortant de l'ordinaire. Ainsi, il évoque le mythe du vieux de la montagne, le seigneur d'Alamut en Syrie. À la tête de la secte des Assassiyoum, il répand la terreur sur les croisés ou les seigneurs arabes qui refusent de se soumettre et de lui verser tribut. Gare aux imprudents capables de vouloir lui résister. Il leur envoie un Assassiyoum, c'est-à-dire un assassin suicide, prêt à tout pour réussir sa mission. Gavé d'un breuvage au hashish, autre étymologie possible, hashishiyoun ou buveur de hashish, devenant assassin, il tue sans peur de la mort, persuadé d'un paradis en récompense du meurtre accompli, ses jours de rêve où fruits, fleurs, vin, miel et femmes l'attendent.
À la conquête du Nouveau Monde. Au XVe siècle, de nombreux territoires sont encore inconnus des peuples de l'Europe occidentale et les nécessités économiques les poussent à découvrir de nouvelles terres à exploiter. L'utilisation des épices, des bois précieux, du coton, du diamant oblige le commerce à se développer en terres inconnues. Des navires arabes vont jusqu'en Inde s'approvisionner en denrées rares qu'ils amènent en Égypte. Vénitiens et Génois viennent alors les chercher et les ramènent vers l'Europe. Peu à peu, les pays occidentaux veulent eux-mêmes aller chercher ces produits dans leur pays d'origine. L'espoir d'y trouver de l'or et de l'argent motive la réalisation des premières grandes expéditions espagnoles et portugaises. Christophe Colomb, l'infortuné. Fils d'un tisserand génois, Christophe Colomb, qui meurt en 1506, vient au Portugal dans l'intention d'étudier l'astronomie, la géométrie et la géographie. Les marins portugais ayant trouvé sur la mer des bois sculptés alors qu'ils naviguaient vers l'ouest, ceci lui fait supposer l'existence de terres inconnues habitées. Il décide alors de rejoindre les Indes par l'ouest, car à la même époque, le savant Toscanelli affirme que la terre est ronde. Son projet est soumis au roi d'Espagne, qui le repousse, mais il est finalement accepté par Isabelle, alors reine d'Espagne. Elle lui promet en récompense le titre de vice-roi de toutes les terres conquises, ainsi qu'un dixième du revenu de ce qu'il pourrait y exploiter. Pour mener son projet à terme, 3 caravelles lui sont données. En août 1492, parti de Palos, il dépasse les Canaries pour aborder une des îles des Bahamas qu'il croit être les Indes. Il atteint Cuba, puis Haïti, et revient en Espagne au bout de 7 mois de voyage. En 1493, il repart avec cette fois-ci une flotte de 17 bateaux sur lesquels se trouve un grand nombre d'agriculteurs, d'artisans. Il visite la Guadeloupe, la Dominique, longe Cuba et la Jamaïque. Ce n'est qu'à la troisième expédition, en 1498, après avoir longé le Venezuela et la Colombie, qu'il découvre l'embouchure de l'Orénoque. Son ultime voyage est au Honduras. Il meurt en 1506, dans l'oubli et la misère, persuadé d'avoir découvert les îles du Japon et trouvé une voie maritime favorable vers les Indes.
Le saviez-vous ? L'œuf de Colomb. Tout le monde connaît l'expression « l'œuf de Colomb », mais bien peu savent son origine. La voici. La faveur dont jouit Colomb auprès des rois très catholiques Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon irrite au plus haut point certains grands seigneurs. Au cours d'un banquet, l'un d'entre eux, jaloux, lance à Colomb : ce voyage aux Indes n'était guère difficile. Colomb, très maître de lui en dépit de l'insulte, lui répond : certes non, monseigneur, mais il en est de toute chose comme de cet œuf. Si je vous prie de le faire tenir droit sur la table, vous n'y parviendrez pas. Et c'est pourtant fort simple. Il suffit d'écraser légèrement comme ceci l'une de ses extrémités. Avec la coquille. Lors de son troisième voyage en 1498, Christophe Colomb atteint l'embouchure de l'Orénoque et fait face au Venezuela. Il est, sans conteste, en Amérique. Pourquoi ce continent s'appelle-t-il donc Amérique, et non pas Colombie ? Les responsables en sont un imprimeur lorrain, Gauthier Lude, et un jeune géographe, Martin Waldseemüller. En 1507, Gauthier Lude décide de rééditer la Bible des géographes depuis l'Antiquité, la cosmographie de Ptolémée. Mais, épris de la soif de connaissance des lettrés de la Renaissance, il demande à Martin Waldseemüller d'en actualiser les cartes. Ce dernier s'appuie sur une lettre de 1503, d'Amerigo Vespucci, qui parle du Nouveau Monde. Et, par la grâce de Martin Waldseemüller, Amerigo Vespucci devient le découvreur du Nouveau Monde. Le jeune géographe, dans l'ouvrage paru le 25 avril 1507, propose même que l'on pourrait appeler désormais ce Nouveau Monde Americus ou America, puisque c'est Americus qui l'a découverte. C'est cette proposition que l'histoire va retenir. Et la Colombie ne sera finalement que l'un des États des Amériques.
L'Amérique, c'est lui, Amerigo Vespucci. En 1499, le Florentin Amerigo Vespucci longe les côtes de l'Amérique centrale jusqu'au nord du Brésil. Il est alors persuadé que les terres explorées par Colomb et par lui sont un quatrième continent. De retour, il annonce à Lisbonne ce qu'il vient de découvrir, qu'il appelle « Nouveau Monde ». Il faut attendre 1560 pour que les limites de l'Amérique soient connues, même vers les régions arctiques et du nord-ouest. En effet, les navigateurs occidentaux cherchent au nord-ouest de l'Amérique un accès vers les Indes et découvrent à cette occasion de nouvelles terres. En 1497, les Anglais abordent au Labrador. En 1500, un Portugais découvre Terre-Neuve. En 1535, une expédition française remonte le Saint-Laurent et s'installe dans ce qui sera appelé plus tard le Canada. Vasco de Gama et Magellan sur les mers du monde. C'est sous le règne d'Henri IV de Castille que commence l'expansion espagnole outre-mer. L'Espagne obtient du pape le jumelage exclusif du commerce dans les pays de l'Ouest. Les Portugais cherchent alors par l'Est la route des Indes. En 11 mois, en partant de Lisbonne, Vasco de Gama atteint la ville de Calicut en 1497, port des épices, par le cap de Bonne-Espérance. De là, il regagne le Portugal en passant par Goa en 1499. Tout le monde veut alors gagner les Indes par l'Ouest en contournant l'Amérique. Au service du roi d'Espagne, Fernand de Magellan se fait confier cette mission. En 1519, il appareille à la tête de 5 navires. Il va de l'Espagne à Rio de Janeiro en longeant la côte et rejoint l'actuel détroit de Magellan. Il donne à l'océan dans lequel il vient de pénétrer le nom de Pacifique. Tournant vers le nord-ouest, il atteint les Philippines. De là, il retourne en Espagne après avoir relâché aux Moluques, passé le cap et longé les côtes occidentales d'Afrique. Les explorateurs de la Nouvelle-France. La France, comme les autres pays européens, cherche à étendre son territoire sur le globe afin d'acquérir de nouvelles richesses. Deux explorateurs jettent leur dévolu sur la région du Saint-Laurent. C'est le début de la conquête de la Nouvelle-France, future province du Québec. Jacques Cartier. Trois voyages pleins de promesses. Dans la première moitié du XVIe siècle, Jacques Cartier, natif de Saint-Malo, effectue pour le compte du roi François Ier trois voyages d'exploration au Canada. Le premier voyage, qui dure d'avril à septembre 1534, se fait après une présentation, par l'entremise du grand aumônier du roi, Jean le Veneur de Tillières, breton lui aussi. Pour le prince, l'aventure doit se traduire en richesses nouvelles, en terres à s'approprier et en gloire des découvertes faites en son nom. Cartier cherche un passage par le nord-ouest pour gagner les Indes. Il part de Saint-Malo avec deux navires et 61 hommes. Après l'exploration de la baie de Gaspé au bord du golfe du Saint-Laurent, il revient en France avec quelques Indiens Iroquois. Lors du second voyage de mai 1535 à juillet 1536, avec trois navires et 110 hommes, Cartier remonte le Saint-Laurent jusqu'au site futur de Québec et de Montréal. Les relations avec les Indiens se sont gâtées. Le butin est maigre, il ne comprend qu'un peu d'or et quelques fourrures. Le troisième voyage, de mai 1541 à septembre 1542, en termes de trésor, est tout aussi décevant, d'autant que Cartier n'est plus le commandant de l'expédition. Le bilan dans l'immédiat est plutôt terne, mais ses voyages sont riches de promesses. Cartier a jeté les fondements de la future Nouvelle-France.
Le saviez-vous ? Le bruit et la fourrure. Au cours de son second séjour au Canada, entre 1535 et 1536, Jacques Cartier entreprend la remontée du Saint-Laurent, dont il n'avait découvert que l'embouchure lors de la première expédition. Il espère gagner ainsi le royaume de Saguenay, qui, selon les Indiens, regorge d'or et de richesses. Mais l'hiver le contraint à rebrousser chemin et à trouver refuge dans un fortin, au beau milieu du territoire du chef Donnacona. Cartier redoute une attaque, d'autant plus que ses marins sont malades du scorbut, affaiblis et incapables de défendre la position. Pour donner le change, Cartier et les marins valides du moment vont faire des achats dans les villages alentours. Si les Indiens approchent, les hommes ont ordre de cogner sur la coque des navires, comme s'il s'agissait d'un chantier en pleine activité. Finalement, les Indiens donnent à Cartier le remède contre le scorbut, qui est une tisane d'écorce de cèdre blanc, appelée l'aneda.
Samuel de Champlain, père de la Nouvelle-France. S'il revient à Jacques Cartier de commencer l'exploration de la Nouvelle-France, future province du Québec, Samuel de Champlain peut être considéré à juste titre comme son véritable fondateur. Il effectue au total 11 voyages, explore la côte nord-est jusqu'au territoire des futurs États-Unis et les grands lacs Huron et Ontario. Désireux de pérenniser la présence française par une colonie véritable, il fonde la ville de Québec en 1608 et prépare la fondation de Montréal, qui a lieu après sa mort en 1642. Champlain y est encouragé par le roi Henri IV, favorable au développement de la colonie. Après la mort du roi en 1610, la régente Marie de Médicis laisse Champlain administrer la Nouvelle-France sous l'autorité toute nominale du prince de Bourbon-Condé. Mais les difficultés s'accumulent. Les familles débarquées meurent en quelques années et les colons pillent pour le compte des marchands les réserves de fourrures des Indiens. Cette activité de traite des fourrures est appelée aussi « ruée vers l'or brun ». Elle attire de nombreux jeunes hommes appelés les « coureurs des bois ». La vie libre et sauvage les éloigne des villes où Champlain peine à essayer de fixer la population d'origine européenne. La menace anglaise commence quant à elle à peser. Québec est pris en 1629, puis repris par les Français. Nommé géographe du roi, Champlain meurt à Québec le 25 décembre 1635. James Cook, à l'assaut du Pacifique. Né dans un petit village du Yorkshire en 1728, James Cook entre dans la Royal Navy. Ses qualités de marin et de meneur d'hommes lui valent de commander un premier navire pour cartographier les rives du Saint-Laurent, puis, en 1768, un second avec lequel il découvre l'Australie et la Nouvelle-Zélande dont il prend possession au nom de la couronne britannique. En 1772, Cook prend la tête d'une expédition vers le Pacifique composée de deux navires, le Resolution et l'Adventure. Le défi est de taille, sillonner l'immense Pacifique pour savoir s'il y a ou non en son centre un continent inconnu. L'expédition passe par l'Antarctique, croise des icebergs qui sont pensés à tort comme le continent recherché, puis gagne la Nouvelle-Zélande où l'explorateur passe deux hivers. Sur le chemin du retour pour l'Angleterre, il découvre les îles Sandwich. En 1776, il repart afin de ramener des indigènes de Tahiti. Il explore les îles du Prince-Édouard, les îles Kerguelen et découvre les îles Hawaï. Le 14 février 1779, au cours d'une rixe opposant les indigènes et les marins anglais, Cook est tué sur la plage de la baie de Kailakekwa. Voyage aux confins du monde. Jusqu'au voyage de découverte des XVe et XVIe siècles, l'Afrique reste un continent largement inconnu. L'intérieur, sur les cartes, demeure en blanc ou occupé par les noms de royaumes fantaisistes nés de l'imagination des géographes occidentaux. Si les côtes sont assez bien connues après le XVIe siècle, il faut attendre le dernier tiers du XIXe siècle pour que les contrées intérieures soient véritablement explorées. L'Afrique entière devient alors un enjeu majeur entre les colonisateurs qui se répartissent ces espaces à dominer lors de la conférence de Berlin en 1885. Les Portugais sont les premiers à contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance qu'il aurait connu depuis 1486, doublé par Vasco de Gama en 1498. Ils sont à l'origine attirés par la recherche de métaux précieux, l'or et l'argent, dont l'Europe, qui est en plein dynamisme économique, manque cruellement pour favoriser la fluidité des échanges. Puis, au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, l'Afrique est exploitée pour le commerce triangulaire. Les navires négriers chargés de verroterie ou d'armes à feu, les échanges sur les côtes africaines contre des esclaves, vendus par les souverains locaux ou les chefs arabes qui ont organisé des raids, les razzias pour les enlever. Ces esclaves sont ensuite transportés vers les Antilles ou les colonies anglaises en Amérique, grandes consommatrices de main-d'œuvre dans les champs de canne à sucre, d'indigo, une plante qui permet de teindre en bleu, ou de coton. Le dernier côté du triangle est refermé quand le navire rentre en Europe chargé de sucre et d'épices. C'est au milieu du XVIIIe siècle que la première carte exacte des côtes africaines est dessinée.